Le journal vous est présenté par Oana Favenec.
Bonsoir à tous. Des questions autour de Notre-Dame de Paris et de la contamination au plomb alentour. Deux écoles qui accueillaient des enfants pendant les vacances resteront fermées sine die, mais pas d'inquiétude à avoir, promet la mairie de Paris. Donald Trump accole stupidité et Emmanuel Macron est dit préférer le vin américain. Menace à peine voilée du président des États-Unis sur les importations des bouteilles françaises après l'adoption par nos parlementaires d'une taxation des GAFA, les géants du numérique. Dans cette édition, nous reviendrons également sur cette question. Pablo Neruda a-t-il été empoisonné? Il reste une analyse à faire pour confirmer l'hypothèse et la famille du poète chilien attend toujours. La pollution autour de Notre-Dame inquiète. Les poussières de plomb ont forcé cette semaine la préfecture de Paris à suspendre le chantier autour de la cathédrale par précaution. Par précaution aussi, deux écoles ont été fermées. Deux écoles de la rue Saint-Benoît dans le 6e arrondissement accueillant des centres de loisirs. Et elles le resteront pour le moment, confirme la mairie de Paris aujourd'hui. Plusieurs maires d'arrondissement s'inquiètent, Ilan Malka.
La mairie de Paris se veut absolument rassurante.
Aucune inquiétude à avoir.
Emmanuel Grégoire, premier adjoint, affirme suivre à la lettre les recommandations de l'Agence régionale de la santé. Celle-ci appelle à une vigilance pour les établissements scolaires où sont relevés des taux de plomb à partir de 5000 microgrammes par mètre carré. Rue Saint-Benoît, à quelques 800 mètres de Notre-Dame, le taux relevé est de 7000.
Nous avons relevé un taux qui n'est pas dangereux pour la santé a priori, mais pour lesquels nous n'avons pas souhaité prendre le moindre risque. Et donc Saint-Benoît dans le 6e arrondissement ne réouvrira que lorsque nous aurons atteint des niveaux de plomb qui respectent les normes édictées par l'ARS.
Tous les enfants qui ont fréquenté l'établissement sont appelés à faire des tests sanguins, même si, encore une fois...
Pas d'inquiétude à avoir, mais c'est vraiment par ces mesures de taux sanguin qu'on lève tout doute.
Les maires d'arrondissement concernés de leur côté restent en alerte. Florence Berthoux est maire du 6e. Elle estime qu'il faut créer une cellule de veille.
Elle permettrait d'avoir une analyse extrêmement objectivée des résultats au plomb et d'avoir un suivi surtout sur la durée. Il faudrait qu'il y ait évidemment des représentants de l'État, les élus, en particulier les maires d'arrondissement, et ce que j'appelle moi des lanceurs d'alerte, des familles qui ont été touchées par le saturnisme en particulier. C'est un droit aujourd'hui du citoyen à être informé.
Et de son côté, le maire du 5e arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, appelle à contrôler les squares de son arrondissement. De nombreux enfants y ont joué ces derniers mois, relève-t-il.
Ilan Malka. À Rouen, 1400 personnes ont participé cet après-midi à la Marche Blanche en hommage à Mamadou Barry, cet universitaire guinéen tué vendredi dernier. Selon ses proches, il s'agirait d'un acte raciste. L'auteur présumé des coups mortels a été arrêté en début de semaine, mais son état avait nécessité la levée de la garde à vue dans la foulée. Connu pour des troubles psychiatriques, il avait été hospitalisé. La vidéo avait provoqué l'indignation. On y voyait 151 lycéens à genoux, mains sur la tête, menottés dans le dos, interpellés par la police à Mantes-la-Jolie. C'était en décembre dernier. L'enquête de l'IGPN, la police des polices, a été classée sans suite. Dans un communiqué, la procureure de la République de Nanterre défend la manière de faire des forces de l'ordre qui paraît, je cite, « justifiée par le contexte exceptionnel de violences urbaines graves et le nombre de personnes devant être conduites dans des locaux de police nécessitant une organisation matérielle incompressible. » Fin de citation. Une autre procédure est toujours en cours. Des plaignants regroupés en un collectif ont en effet demandé la saisine d'un juge d'instruction. En France et en Europe, les températures chutent, mais ces dernières 24 heures, une dizaine de feux de forêt ont été recensés en France, des centaines de feux de végétation, 6500 hectares de blé et de chaume partis en fumée hier, une situation inédite, essentiellement due aux températures records mêlées à la sécheresse et aux activités de moissonnage, et cela va forcer des départements du nord de la France à s'adapter. Écoutez les explications du porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, le contrôleur général Marc Vermeulen.
Les sapeurs-pompiers ont vraiment été confrontés à des feux d'une rare virulence, parce que la problématique sur ces feux de blé, c'est qu'on peut avoir des changements de direction du vent qui peuvent être très rapides. Dans le département de l'Oise, ils ont même battu le triste record de 1986 sur lequel ils avaient fait un feu de 350 hectares. Là, ils ont fait un feu de 637 hectares. Il y a deux camions feux de forêt qui ont été piégés. Ils ont mis en place un système d'autoprotection qui est normalement l'équipement de véhicules qui ont plus vocation à aller pour les feux de forêt dans le sud de la France. Maintenant, on voit que même en proche de la zone Île-de-France, on peut être confronté à ce genre de situation. il va falloir qu'on regarde et qu'on observe la récurrence de ces phénomènes. On a des phénomènes, notamment dans le sud de la France, et ça monte un petit peu au fur et à mesure, qui deviennent de plus en plus récurrents, et surtout avec une intensité de plus en plus forte. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre d'études qui sont menées pour renforcer la flotte aérienne des bombardiers d'eau, avec des porteurs qui transportent une plus grande capacité d'eau pour pouvoir être plus efficace et avoir un impact plus important sur le terrain. Mais également, ça veut dire que l'ensemble des départements, il va falloir qu'on regarde bien et qu'on observe et qu'on adapte nos besoins en fonction de la situation.
Marc Vermeulen avec Fiona Mogadam.
ACDC.
La guerre des tweets de Donald Trump, et cette fois ce sont Emmanuel Macron et la France qui sont visés. Le président américain annonce aujourd'hui sur Twitter qu'il va riposter à la taxe GAFA en évoquant le vin français. Loïc Piala.
J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français, assure Donald Trump sur le réseau social, et cela juste après avoir dénoncé, je cite, la bêtise de Macron. Il y a deux semaines, le ministère du Commerce a annoncé avoir ouvert une enquête sur le projet de taxe GAFA, le même type d'enquête ouverte sur les pratiques de la Chine avec les conséquences que l'on sait, une guerre commerciale entre les deux puissances. Les produits français, dont le vin, pourraient donc eux aussi faire face à des représailles si l'on en croit le président américain. Il estime que c'est aux États-Unis et à eux seuls de taxer leurs entreprises. L'ironie, c'est que si le dirigeant défend aujourd'hui avec vigueur les géants de la tech, il est souvent le premier à les attaquer, en particulier Amazon. Le numéro 1 du commerce en ligne a également été critiqué par les démocrates lors du premier débat de l'après-mère pour ne pas assez payer d'impôts aux États-Unis.
Loïc Piala à Los Angeles. La réponse de la France n'a pas tardé. La France mettra en œuvre ses décisions nationales, a réagi Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie a expliqué que la France souhaitait à terme parvenir à un accord sur le sujet dans le cadre du G7 et de l'OCDE. Donald Trump s'en est également pris à la Chine, toujours sur Twitter et en lettres capitales, usant de moult points d'exclamation. Le président des États-Unis dit laisser 90 jours à l'OMC pour régler le problème des pays membres qui usurpent leur statut de pays en développement pour en tirer des avantages économiques. Il n'y a rien de plus beau que de perdre le temps. Ces mots de Pablo Neruda font écho à l'impatience de sa famille, convaincue que le poète chilien a été assassiné, empoisonné quelques jours après le coup d'état militaire du 11 septembre 1973, lui qui ne cachait pas sa proximité avec Salvador Allende. Il y a 5 ans, le corps de Pablo Neruda a été exhumé pour vérifier s'il était bien mort des suites d'un cancer. Mais aujourd'hui, la famille du poète accuse l'Institut médico-légal de Santiago de faire obstruction à la justice. Il manque en effet une dernière expertise. Justine Fontaine.
3 petits flacons de laboratoire remplis de terre. Voilà ce qu'il manque pour clore les expertises scientifiques dans l'affaire Neruda. Il y a 2 ans, une dizaine d'experts internationaux avaient établi la présence en grande quantité d'une substance paralysante dans le corps du poète. Il restait encore à analyser la terre prélevée autour de la tombe du militant communiste pour être complètement sûr que la contamination n'était pas postérieure à sa mort. Mais selon l'avocat de la famille, Rodolfo Reyes, aussi neveu du poète, le service médico-légal a jusqu'ici refusé de mettre les échantillons à la disposition de la justice.
L'Institut médico-légal affirmait qu'ils ne les avaient pas, qu'ils avaient été utilisés pour d'autres analyses. Mais lors d'une perquisition ordonnée hier par le juge Mario Carrosa au service médico-légal, les flacons ont été trouvés. C'est inexplicable que les services aient pu mentir au juge. Cela a eu des conséquences très négatives dans cette affaire Neruda.
L'instruction menée par la justice chilienne a en effet été retardée de plusieurs mois. Mais désormais, la famille de Pablo Neruda a bon espoir que les échantillons soient rapidement envoyés vers le Canada. C'est là que se trouve le laboratoire spécialisé qui doit réaliser les toutes dernières analyses dans cette affaire. La famille espère ainsi voir confirmer à 100% l'hypothèse selon laquelle le plus célèbre des poètes chiliens a bien été assassiné le 23 septembre 1973.
Justine Fontaine à Santiago pour France Culture. L'OMS déconseille la cigarette électronique. Les vapoteuses sont incontestablement nocives et devront être régulées, peut-on lire dans un rapport présenté aujourd'hui à Rio de Janeiro. L'Organisation mondiale de la santé compare toutefois avec la cigarette classique et tempère en considérant que les vapoteuses exposent à moins de substances toxiques que les cigarettes que l'on consomme. Un coup d'œil sur le temps de demain, la fin de l'épisode caniculaire approche. 27 départements restent ce soir en vigilance orange, canicule ou orage, ou les deux, dans l'Est et le centre de la France. Demain, le temps sera perturbé et orageux selon Météo France. Le ciel restera chargé avec seulement quelques ondées et cette accalmie regagnera vers l'Aquitaine, le centre du pays et la Normandie. C'est la fin de cette édition réalisée avec Brice Garcia. Prochain journal de la rédaction à 7h avec Laura Dulieu.